nuit de veille à Calais ce vendredi 27 septembre à 19h, une invitation pour dire non aux expulsions de squats de migrants, non au harcèlement jour et nuit des exilés par les services de police. Pour en parler, on a contacté par téléphone hier Philippe Vanesson de l'association La Marmite aux idées. Avant d'évoquer la situation calaisienne, il commence par nous présenter vite fait cet assaut.
Donc c'est une petite association calaisienne qui a 4 ans maintenant, qui s'occupe de sensibiliser la population, faire le lien entre les Calaisiens et les migrants, donner aux migrants des outils pour faire face à la situation où ils sont, en termes d'information, notamment d'information juridique, de cours de langue, et puis qui interpelle les autorités pour faire évoluer la situation et que la politique change vis-à-vis des exilés.
Alors ce vendredi, vous appelez avec un grand nombre d'associations locales à cette nuit de veille à Calais, avec comme mot d'ordre plus d'expulsion sans solution. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a forcé les associations à organiser cette nuit de veille?
D'une part, on a une situation qui ne change pas depuis plus de 10 ans, et on a eu... Alors il y a des périodes plus ou moins calmes, il y a des périodes où les expulsions se font en série. Depuis le 5 septembre, en fait, on est dans une période d'expulsion en série. Donc tous les squats qui duraient depuis quelques mois, un à un, sont démantelés, les gens sont jetés à la rue. Et une fois qu'ils sont à la rue, dès qu'ils trouvent un endroit pour s'abriter et que la police les trouve, ils en sont chassés. Donc on a des gens qui vivent au jour le jour, qui se posent dans un buisson la nuit en espérant de ne pas se faire repérer, qui parfois sont délogés. Quand c'est pas le cas, qu'ils remballent leurs affaires soigneusement le matin pour pas se faire repérer et conserver l'endroit. On est vraiment dans une période de forte pression et de chasse à l'homme dans toute la ville. Donc du coup, réaction des associations, d'autant plus qu'il y a eu des réunions de concertation avec la préfecture. Donc on pouvait s'attendre à une autre attitude que celle-là, d'autant plus qu'il y a eu une circulaire interministérielle en août 2012 qui propose une méthode en fait de diagnostic, de concertation en amont des expulsions pour trouver notamment des solutions de relogement ensuite, et qu'on n'a ni concertation, ni diagnostic, ni relogement. Donc on n'en voit pas l'application et la concrétisation sur le terrain.
Alors pourquoi justement cette série d'expulsions? Comment vous expliquez ça? Quelle est votre analyse de l'action policière?
C'est pas simplement une action policière. D'une part, il y a une position claire de la maire de Calais depuis le printemps dernier notamment, qui est répétée et qui visiblement est un acte de sa campagne électorale, puisqu'il y a des municipales et que les municipales sont pas du tout gagnées pour elle. Donc visiblement, c'est un de ses axes de campagne, et visiblement, l'État suit dans la même logique, ce qui correspond aussi à l'augmentation des expulsions de campements de Roms, etc. Enfin, c'est tout l'affichage sécuritaire que fait Valls en ce moment. Donc l'État et la mairie se retrouvent sur un durcissement de la répression qui sert pas à grand chose. C'est-à-dire, par rapport à d'autres périodes de forte pression, on constate que les gens qui avaient des solutions de repli ailleurs effectivement ont quitté Calais, mais qu'il y a toujours autant d'exilés présents, qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent. Donc en fait, même cette baisse provisoire du nombre de personnes présentes, parce qu'elles sont ailleurs, hein, c'est juste un déplacement du problème, même ça, finalement, on le voit pas sur le terrain. Les gens s'adaptent, ils ont des stratégies au jour le jour, ils s'organisent comme ça, et ça peut continuer un certain temps de cette manière. Mais effectivement, on est dans une logique, ça fait depuis la fermeture de Sangatte, en fait, qu'il y a des périodes de ce genre-là, et on est dans une logique d'affichage politique, en sachant qu'il n'y aura pas de résultat de toute façon.
Peut-être pour avoir une idée un petit peu plus précise de quoi on parle, quand on parle de squat, hein, c'est des logements ou des bâtiments qui sont vides et qui sont occupés par des migrants dans des conditions vraiment très très précaires, mais c'est quand même mieux que d'être dehors, c'est ça?
Il y, Il y a deux choses. Bon, d'une part, c'est, être dans un bâtiment, ça abrite un minimum de la pluie, du vent, des intempéries. Et d'autre part, le fait de revenir tous les soirs dans le même endroit, ça crée aussi un minimum de sécurité. Ça veut dire aussi qu'il y a une vie sociale qui se crée dans le lieu. Enfin, pour connaître les squats, en fait, les gens arrivent, ils trouvent un peu un endroit pour dormir. À un moment donné, il y a des foyers qui se créent, donc on fait un feu, on se retrouve autour du feu. Il y a toujours un moment à partir duquel, quand on est en visite là-bas, les gens commencent à vous offrir le thé. Ça veut dire qu'ils commencent à s'être approprié le lieu et qu'ils se sentent chez eux. Il y a un peu tout cet aspect, en fait, qui est de vie sociale et de sécurité, de savoir où on va dormir le soir, qui est importante. En fait, c'est destructeur psychologiquement de chasser les gens de lieu en lieu et qu'ils soient dans la précarité, une précarité telle qu'ils ne savent pas où ils vont se poser, quand ils vont pouvoir se poser et qu'ils accumulent en plus le manque de sommeil pendant des jours et parfois des semaines. Même le pire des squats, en fait, ou le pire des campements, il apporte au moins ça, cette stabilité psychologique et un minimum de protection matérielle contre les intempéries. Après, Calais, c'est une ville sinistrée par la crise, donc c'est plein de bâtiments vides, que ce soit des bâtiments d'habitation ou que ce soit d'anciens entrepôts, bâtiments industriels et autres. Mais il y a aussi des gens qui plantent des tentes ou construisent des cabanes plus à l'écart de la ville, dans les dunes ou ailleurs.
Vous avez utilisé le terme de traque policière. On peut parler aussi de harcèlement, me semble-t-il. Une traque qui touche aussi les points de distribution de repas coordonnés par les assos locales.
Oui, ça c'est quelque chose qui est, alors pas complètement nouveau, mais disons qu'il y avait un peu un accord pour que la police ne soit pas trop présente, pas de manière trop visible, aux alentours des lieux d'activité des associations humanitaires. Or, ce qu'on a eu à trois reprises pendant plusieurs jours depuis le début d'année, c'est la police filtrant les entrées du lieu de distribution des repas. Donc les gens doivent faire une queue qui est régulée par la police à l'extérieur du lieu, subissent des palpations de sécurité systématiques, voire des fouilles, avant de pouvoir entrer et de pouvoir manger. Sachant que c'est un lieu qui est clôturé par des grilles, donc il y a une seule entrée où ils peuvent passer. Et d'autre part, on a eu assez fréquemment un dispositif plus léger, mais une, deux voitures de police juste à l'entrée. Les policiers regardent, n'interviennent pas plus que ça. Mais on a une présence très fréquente de la police à proximité de ce lieu. Du coup, à chaque fois qu'il y a plus de pression, il y a des gens qui sont pas trop en confiance, qui viennent plus manger. Et d'autre part, les associations, en fait, se retrouvent en situation de servir des repas dans un lieu dont l'entrée est gérée par la police. Ce qui, en termes de relations de confiance avec les exilés, pose quand même problème, quoi. On apparaît, quand on est dans ce genre de situation, comme des espèces de sous-traitants humanitaires de la police ou quelque chose comme ça. Ce qui pose aussi d'autres problèmes, parce que cette relation de confiance, c'est une capacité de connaître les difficultés des gens, parfois de les aider, de connaître la situation aussi, de pouvoir recueillir des témoignages, de faire des choses comme ça. Donc finalement, ça coupe les associations du contact avec les exilés.
Justement, quel est leur sentiment à ces associatifs, ces personnes qui donnent de leur temps pour apporter une aide humanitaire? On parle régulièrement d'un ras-le-bol et puis d'une grosse fatigue. Est-ce qu'il y a aussi est-ce que ça tourne, quoi? Est-ce que c'est il y a un renouvellement des gens qui viennent apporter leur aide ou pas tellement?
Il y a effectivement toujours des nouveaux. Après, je pense qu'il y a effectivement un essoufflement devant le fait de renouveler toujours la même chose sans en voir le bout. Et l'une des choses inquiétantes, c'est du coup être plus dépendant des subventions. Là, il y a des emplois à venir qui ont été débloqués pour deux associations qui s'occupent des repas. Ce qui veut dire que les associations se retrouvent installées dans la pérennisation de la situation actuelle, c'est-à-dire les gens n'ont pas où manger, les gens n'ont pas où dormir, et ils viennent manger dans un lieu aménagé où on n'a pas mis de chaise, les gens doivent manger debout ou assis par terre, qui est un lieu ouvert, il y a juste un auvent et on est en bord de mer, il y a souvent du vent, donc dès qu'il pleut, les gens sont à la pluie, et puis où il fait froid l'hiver, quoi, très concrètement. Donc un lieu qui n'est pas un lieu d'accueil, qui est un lieu complètement indigne et qui a été aménagé pour ça de manière complètement consciente, pour que les gens ne puissent pas se poser, effectivement. Ou s'ils se posent, ils s'assiedent par terre, mais il y a rien qui est prévu. Récemment, ils ont mis des tablettes sous les auvents, parce qu'avant, le seul truc qui pouvait servir de table, c'est les poubelles. Donc les gens mangeaient sur les couvercles des poubelles quand ils avaient besoin de poser leur barquette de pâte ou de riz. Voilà un peu les conditions dans lesquelles les associations interviennent. Et pour l'instant, le deal que leur propose l'État, c'est vous êtes fatigué, vous avez moins de bénévoles, on vous donne des sous, on vous donne des salariés pour que vous pérennisiez la situation. En ce moment, ce qui se discute avec les associations, c'est pas l'hébergement des gens, l'application des circulaires ministérielles, l'application de la loi en termes d'hébergement inconditionnel, d'hébergement d'urgence ou de logement des demandeurs d'asile. C'est l'ouverture d'un gymnase dans le cadre du plan Grand Froid quand il est au niveau 2, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines, et on ferme dès qu'il fait un peu plus chaud, dès que la température est repassée au-dessus de zéro. Donc la pérennisation est de la même précarité, en fait, et il n'y a absolument pas de dialogue sur comment on pourrait améliorer les choses. Malgré les affichages gouvernementaux, que ce soit la circulaire dont je parlais tout à l'heure du 26 août 2012, que ce soit les instructions données par le ministère du Logement au préfet concernant l'inventaire des logements vides en vue de leur possible réquisition s'il y a des besoins en termes de logement, etc. Ça, on n'en voit pas la couleur, en fait. On a des affichages au niveau national, on le lit dans le journal, mais c'est absolument pas mis en pratique sur le terrain.
Moi je surveille la frontière comme un bon garde-barrière. Je scrute été comme hiver. Chez nous, vivre c'est un calvaire. Mais personne ne quitte cet enfer. On ne sort pas de nos frontières.
On est toujours en compagnie de Philippe Vanson de l'association calaisienne La Marmite aux idées.
Toutes les combines pour y parvenir. Jusque-là, tortionnaire, j'empêchais les autres de sortir. Mais là, la frontière ne sera plus pour moi qu'un vague souvenir. Alors, j'oublierai le pire.
Les migrants qui sont de passage à Calais, on le sait, veulent rejoindre l'Angleterre où il y a des conditions sans doute plus favorables pour les demandes d'asile. Ces migrants fuient la plupart du temps des situations très compliquées dans leur pays, et notamment donc il y a des Syriens, des Soudanais en ce moment à Calais.
On a un peu le panel des crises internationales, enfin pas toutes, mais en tout cas une bonne partie. Il y a toujours des Afghans qui sont là, toujours des Irakiens, toujours des gens d'Afrique de l'Est, que ce soit le Soudan, que ce soit l'Érythrée, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit la Somalie, que ce soit le Tchad. Et effectivement, depuis un an, mais vraiment de manière visible depuis ce printemps, des Syriens qui se dirigent effectivement vers le Royaume-Uni, mais qui parfois en étant bloqués vont se réorienter vers d'autres solutions. Le discours des Syriens, il est assez révélateur, en fait. Les gens, ils cherchent pas forcément à aller au Royaume-Uni. Parfois oui, c'est un but positif, mais parfois tout simplement ils ont débarqué à Paris, ils ont vu des demandeurs d'asile qui vivent dans la rue parfois pendant des mois. Ils ont compris qu'avant même d'avoir un rendez-vous à la préfecture pour pouvoir faire leur demande d'asile, il va falloir qu'ils attendent un mois, deux mois, trois mois selon les lieux, en étant dans la rue, puisqu'ils ne sont pas considérés à ce moment-là comme demandeurs d'asile, puisqu'ils n'ont pas accès au guichet. Ils savent que la procédure va être longue, alors qu'ils ont une famille qui est restée au pays et qui est en danger. Donc effectivement, ils vont s'orienter vers des pays où d'une part on les laisse pas à la rue pendant des mois sans qu'il se passe rien, où la procédure est plus rapide, et où ils vont pouvoir faire un regroupement familial une fois qu'ils ont une réponse positive. Donc pas la France. Et les gens qu'on voit ici, les Syriens, effectivement leur but est d'aller en Angleterre. Parfois quand ils sont coincés pendant longtemps, ils se réorientent vers un autre pays. ça peut arriver. En fait, le but de l'Angleterre, les gens ne se font pas d'illusions sur la situation là-bas, de moins en moins, parce qu'ils connaissent des gens, ils savent que c'est difficile, ils savent qu'il y a aussi la crise là-bas. Mais les demandeurs d'asile sont hébergés, la procédure est plus rapide. Et les droits sont mieux garantis pendant la procédure. Donc il y a cette raison positive. La raison négative, c'est qu'ils traversent des pays où il n'y a pas vraiment de politique d'accueil et on essaie de décourager les gens en les laissant à la rue. C'est l'Italie, c'est la France. C'est maintenant assez largement la Belgique aussi. Donc ils continuent plus loin en recherche de pays qui respectent mieux leurs droits, en sachant qu'il y a quand même de grandes chances que leurs empreintes digitales aient été prises en franchissant une frontière en amont, donc qu'ils soient renvoyés vers le pays d'entrée dans l'Union européenne. Ce qui est les accords de Dublin 2, et ce qui est l'un des problèmes, en fait, d'accès des personnes à une procédure d'asile équitable.
L'exemple des Syriens est particulièrement parlant parce que ça illustre le double discours à la tête de l'État. C'est d'un côté, on veut aider le pays à surmonter la guerre civile, on peut paraître ça comme ça, mais en même temps, les réfugiés syriens, on les aide pas trop.
On les aide pas du tout, alors que d'autres pays le font. La Suède a mis tout de suite en place une procédure humanitaire. C'est-à-dire que tout Syrien arrivant en Suède, faut déjà arriver en Suède, hein, mais arrivant en Suède recevait un titre de séjour temporaire de 3 ans. Et maintenant, comme la crise se prolonge, ils ont décidé de reconnaître l'asile en fait à tous les Syriens qui arrivent en Suède. La différence entre les deux étant que le titre humanitaire temporaire ne permettait pas le regroupement familial, alors que c'est vraiment une inquiétude qui est très forte de la part de ceux qui viennent en Europe. En fait, c'est pas simplement pour sauver leur peau, c'est aussi pour sauver leur famille. Donc, en ayant accès au statut de réfugié, ils ont accès aussi à la possibilité de faire venir leur famille. Donc, la Suède, par exemple, a mis en place, qui est un pays certes riche, mais quand même un petit pays par rapport à la France en nombre d'habitants, a mis en place une politique d'accueil par rapport à cette situation de crise. On a le même souci par rapport à la réinstallation de réfugiés reconnus comme tels par le HCR, par exemple en Turquie. Certains pays accueillent des réfugiés, puisque le système turc n'est pas au point en termes d'accueil de réfugiés. La Suède doit en faire partie. La France n'accueille pas de Syriens dans ce cadre-là non plus. Donc la France aussi a mis en place, dès le début de la crise syrienne, un visa de transit pour les Syriens transitant dans les aéroports français. Donc un obstacle de plus. Des fois qu'entre deux avions, un Syrien puisse accéder aux autorités françaises pour demander l'asile, quoi. Oui, effectivement, il y a un discours sur la Syrie et il y a une pratique par rapport aux Syriens qui viennent chercher une protection sur le territoire français.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière.
On a parlé des Syriens. Pour les Soudanais, comment ça se passe?
L'accueil est pas meilleur du point de vue matériel. Et l'une des choses graves qui est en train de se produire en ce moment, qui s'est déjà produit dans le passé, c'est qu'il y a 4 Soudanais qui sont au centre de rétention de l'Équin pour être renvoyés au Soudan, alors que la France, parallèlement à l'ONU, fait des interventions remarquées sur la situation et des droits de l'homme et de guerre civile et le génocide au Darfour et des choses comme ça. Donc d'un côté, on a un discours dans un certain nombre d'enceintes internationales sur la situation dans le pays et la responsabilité du gouvernement soudanais dans cette situation. Et de l'autre, quand les gens réussissent à arriver en France et sont demandeurs d'une protection, on les renvoie éventuellement dans ce pays et il y en a un certain nombre qui sont en rétention en ce moment pour être renvoyés.
Dernière question, c'est sur cette nuit de veille à Calais, donc une nuit pour se mobiliser sur les questions d'expulsion à Calais. Comment ça va se passer cette nuit, cette veillée?
Concrètement, on va se retrouver après la distribution du repas, donc à 19h. Il est prévu des prises de parole, un peu de musique, des projections, le tout jusque vers 11h minuit, et puis ensuite une partie des personnes vont rester pour jusqu'au lendemain matin. Il est demandé aussi à chaque personne d'apporter quelque chose qui symbolise la maison, qu'on ira emmener à la sous-préfecture le samedi matin. Pour appuyer notre demande que les gens puissent avoir un toit et un rendez-vous et demander au sous-préfet pour le samedi matin pour lui faire part de nos revendications. Donc c'est une initiative qui est commune à l'ensemble des associations calaisiennes, qui est soutenue par l'ensemble des associations de la région, des associations de soutien aux exilés, et qui a reçu le soutien national de 14 organisations membres de la coordination française pour le droit d'asile. Donc c'est devenu en fait une grosse initiative dont on est assez content parce qu'on avait un peu perdu cette tradition de se remobiliser tous ensemble et en plus, les liens avec les organisations nationales, c'était un peu distendu. Donc ça, c'est assez positif.
Philippe Vanson de l'association La Marmite aux idées, on l'a eu au bout du fil. Hier matin, le rendez-vous de la nuit de veille à Calais, c'est ce vendredi à 19h. Rendez-vous devant le parc Saint-Pierre en face de la mairie de Calais. Vous retrouverez ce sujet sur notre site internet www.radiopfm.com.
Entendez-vous, chers citoyens, le corps de chasse qui sonne. Française, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie des droits de l'homme, je décrète. Quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre. Sachez, chassez, comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez, croisez les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays loin. On doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend. Six pieds sous terre, hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre.